VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du mardi 2 mars 2021. Eric Manelakidza à la présentation. Voici d'abord les titres. Libération au Nigeria, des centaines d'adolescentes enlevées dans un internat dans le nord-ouest du pays. Au Sénégal, le député Ousmane Sonko est convoqué demain matin dans une affaire de viol présumé. En RDC, Modeste Bahati, élu président du Sénat, c'est un allié du président Félix Tshisekedi. L'Irak s'apprête à recevoir le pape François pour une visite historique où le pape va rencontrer la plus haute autorité religieuse chiite. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Au Nigeria, les hommes armés ont libéré des écolières enlevées dans un internat de la ville de Djangébé dans l'état de Zamfara dans le nord-ouest du pays. Les otages libérés ont été reçus par le gouverneur de l'état. La correspondance de Gilbert Tamba à Abuja.
Vendredi dernier, 317 filles avaient été enlevées lors d'un raid par des hommes armés à l'école secondaire gouvernementale de Djangébé. Des jours de négociations entre le gouvernement et les représentants des ravisseurs ont permis la libération des filles, certaines ayant moins de 11 ans. Les autorités ont nié avoir payé une rançon. Selon le gouverneur de l'état de Zamfara, les écolières libérées sont sous observation médicale dans un établissement de santé avant qu'elles ne soient remises à leurs familles. Des gangs criminels lourdement armés dans le nord-ouest et le centre du Nigeria ont intensifié leurs attaques ces dernières années, enlevant contre rançon et pillant des villages. Ces enlèvements qui se sont multipliés ces derniers temps sont devenus un problème largement répandu dans le pays. Des hommes d'affaires, des fonctionnaires et des citoyens ordinaires arrachés dans les rues par des criminels à la recherche d'une rançon. En décembre, plus de 300 garçons ont été enlevés dans une école de Kankara dans l'état natal du président Buhari. L'armée nigériane s'est déployée dans la région du Nord en 2016, mais les attaques se sont poursuivies.
Le Nigeria a reçu mardi près de 4 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 financées par le dispositif COVAX. Les soignants et les professions à risque seront les premiers vaccinés dès vendredi. La justice malienne a annulé mardi les poursuites intentées contre cette personnalité accusée d'avoir préparé un coup d'État contre le pouvoir de transition d'un ancien premier ministre et un animateur radio-vedette. Au Sénégal, le député et opposant Ousmane Sonko est convoqué mercredi matin pour répondre aux questions d'un juge d'instruction dans une affaire de viol présumé dont il est accusé. Ce qu'il rejette, le point avec Abdourahman Dia.
Cette convocation au tribunal fait suite à la levée de l'immunité du député par le Parlement à la demande du juge. M. Sonko, arrivé troisième à la présidentielle de 2019, a déclaré qu'il ne se rendrait pas à la convocation avant que celle-ci ne se confirme. Ses avocats n'ont pas dit si M. Sonko persistait dans ce refus de répondre à la justice. Cette affaire provoque de vives tensions depuis un mois au Sénégal. Le parti de M. Sonko a dénoncé lundi l'arrestation de près de 80 personnes depuis un mois, des jeunes sympathisants, d'activistes et dernièrement de 17 femmes qui entendaient manifester contre ce qu'elles considèrent comme un complot visant leur leader. Les autorités ont déployé d'importants effectifs de police à Dakar pour parer à d'éventuelles manifestations. Ousmane Sonko, 46 ans, met directement en cause le président Macky Sall, l'accusant de chercher à l'écarter de la course à la prochaine présidentielle en 2024. Le président sénégalais dit n'avoir rien à voir avec les ennuis du député.
Un responsable du parti d'opposition béninois, les démocrates, et l'un de ses collaborateurs ont été incarcérés lundi soir après avoir été inculpés pour association de malfaiteurs et terrorisme. Bio Dramane Tidjani et son collaborateur Mamadou Tidjani ont été placés sous mandat de dépôt, a affirmé leur conseil, Maître Renaud Abodjo. En RDC, un partisan du président Félix Tshisekedi, Modeste Bahati, a été élu président du Sénat après avoir constitué une nouvelle majorité parlementaire pour écarter du pouvoir le camp de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila. Le point avec Patrick Abega.
6 des 7 postes étaient à pourvoir au sein du bureau du Sénat. Élus en début de législature, les membres du bureau dirigé par Tambo Mamba, proche de l'ancien président Kabila, ont été contraints à la démission sous la pression des pétitions qui les visaient. Pour les partisans de l'actuel président, c'est une victoire qui mettra fin aux tensions entre les parlements et l'exécutif.
Le président de la République a une vision et donc il est tout à fait normal qu'il se réjouisse du fait que autour de lui, il y a maintenant des Congolais qui se départissent de leurs idéologies politiques pour penser peuple congolais, pour penser intérêt du peuple congolais.
Les francs commis pour le Congo de l'ex-président Kabila, qui a enregistré beaucoup de défections depuis la rupture de la coalition avec les Kanti Tshisekedi, prévient contre une gestion opaque. Le Parlement congolais doit se réunir en congrès d'ici au 15 mars pour investir le gouvernement du nouveau Premier ministre Samalou Kondé.
Le procès en France de l'ancien chauffeur de tête franco-rwandais Claude Muhayimana, accusé de complicité de génocide, qui a déjà été reporté deux fois, se tiendra du 22 novembre au 17 décembre. Monsieur Muhayimana travaillait au guest house de Kibuye, au bord du lac Kivu, dans l'ouest du Rwanda. Environ 2000 Algériens, dont une majorité d'étudiants, ont de nouveau manifesté mardi à Alger contre le régime, malgré l'interdiction de rassemblement. Les indépendantistes sahraouis du Front Polisario ont de nouveau contesté mardi devant la justice européenne le traité commercial signé entre l'Union européenne et le Maroc qui permet à Rabat d'exporter des produits agricoles de l'ancienne colonie espagnole. Une audience prévue sur deux jours s'est ouverte devant le tribunal de l'Union européenne à Luxembourg. L'Égypte et le Soudan ont proposé mardi la formation d'une médiation quadripartite dirigée par la République démocratique du Congo pour relancer les négociations sur le barrage controversé construit par l'Éthiopie sur le Nil. Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, les deux pays ont confirmé leur attachement à la proposition soudanaise soutenue par l'Égypte d'étoffer le mécanisme de négociation sous l'égide de l'Union africaine. L'organe de défense des droits de l'homme en Éthiopie s'est dit préoccupé mardi par les récentes arrestations de journalistes et traducteurs au Tigré, région où l'armée mène une opération militaire depuis novembre. Au Mozambique, Amnesty International a accusé mardi les forces gouvernementales et des mercenaires d'avoir tué sans discernement des civils au cours de leur lutte contre la rébellion djihadiste dans la province stratégique de Cabo Delgado, dans le nord-est du pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pour la première fois de l'histoire, un pape sera en Irak à partir de vendredi pour encourager la fragile minorité chrétienne à tenir bon malgré les conflits et la vie dure et pour tendre spectaculairement la main à l'islam chiite. Les précisions de Johnny Lindon.
En Irak, l'un des berceaux de la chrétienté exsangue par les guerres et encore marqué par la percée du groupe État islamique, le pape François va rencontrer la plus haute autorité religieuse d'une partie du monde chiite, le grand Ayatollah Ali Sistani à Najaf, au sud de Bagdad. Ce sera une première dans l'histoire. Il s'agira en outre du premier séjour à l'étranger du souverain pontife depuis le début de la pandémie de COVID-19, après avoir été dûment vacciné. Durant sa visite de trois jours, le pape argentin de 84 ans rendra visite à une minorité chrétienne au milieu de 40 millions d'Irakiens divisés par des guerres et la crise économique. Sous le règne de Saddam Hussein, les chrétiens étaient environ 1,5 million, soit 6% des Irakiens. Aujourd'hui, avec grand maximum 400 000 membres, il ne représente plus que 1% de la population, estime William Wada de Hammurabi, une ONG locale de défense des minorités. Le programme du souverain pontife est aussi ambitieux. Jusqu'à lundi, il ira dans une cathédrale endeuillée par une prise d'otage en 2010 à Bagdad, dans la cité d'Our, dans le désert méridional, à Najaf et dans des églises ravagées par le groupe État islamique à Mossoul, dans le nord du pays.
La Jordanie a averti mardi Israël que les accords de paix signés entre l'État hébreu et des pays arabes ne pouvaient se substituer à la résolution de la question palestinienne sur la base de deux États. Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions à l'encontre de plusieurs hauts responsables russes en réponse à l'empoisonnement et à l'emprisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny. Ces sanctions ont été prises en concertation étroite avec nos partenaires de l'Union européenne et sont un signal clair envoyé à Moscou, a indiqué un responsable américain sous couvert d'anonymat. Nous réitérons notre appel à une libération immédiate et sans condition de M. Navalny, a-t-il ajouté. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec John Lyndon.
La Côte d'Ivoire lance le défi d'une meilleure qualité du coton. Dans l'optique de cette amélioration du coton made in Côte d'Ivoire, l'Intercoton, qui regroupe les principaux acteurs de la filière, entend rendre plus compétitif le produit sur le marché mondial. La production cotonnière a connu une baisse drastique ces dernières années. Elle est ainsi passée de 120 000 tonnes en 2002 à près de 500 000 tonnes en 2020. Le Togo va bénéficier de l'extension de l'initiative de suspension du service de la dette. Selon le Club de Paris, les représentants des pays créanciers ont accepté d'accorder au pays une extension de la durée de suspension du service de la dette sur les 6 premiers mois de l'année 2021. Le Togo rejoint ainsi la Côte d'Ivoire et le Mali sur la liste des pays bénéficiaires de cette initiative. En perte de vitesse, l'assureur Britam va supprimer plus de 130 emplois au Kenya. Ce processus pourrait coûter plus de 6 millions de dollars à la société cotée à la bourse de Nairobi. Britam affirme que cette décision a été rendue nécessaire par la sous-performance financière et boursière de la société par rapport à ses pairs, ajoutant que ses coûts de personnel actuels restent gonflés.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La finale de la CAN des moins de 20 ans opposera le Ghana à la Tunisie. Les Black Starlets ont battu la Gambie hier 1-0 en demi-finale. Dans la seconde demi-finale, l'Ouganda a su classer la Tunisie 4-1, grâce notamment à son attaquant en feu Derek Kakuza, auteur d'un triplé et désormais le meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. En finale samedi, l'Ouganda affrontera le Ghana, triple vainqueur de ce tournoi. Bien avant, vendredi, Tunisiens et Gambiens s'opposeront pour la 3e place. Le Cameroun prépare les éliminatoires de la prochaine CAN qui l'accueille en janvier 2022. 37 joueurs ont été convoqués par Tony Conceição, sélectionneur des Lions Indomptables, qui disputeront 2 matchs les 22 et 30 mars, respectivement contre le Rwanda et le Cap-Vert. 2 joueurs ayant participé au CHAN sont sur la liste, le gardien de but Kérido Hachou et l'attaquant Martin Assomo, 2 fois élu homme du match lors du CHAN. Meyapia Fongen, le capitaine des Lions Indomptables des moins de 20 ans, obtient lui aussi une première sélection en équipe Fanion. Des absences de marque à noter comme celle du gardien André Onana, suspendu 1 an pour dopage dans l'attente du résultat de son appel devant le TAS, et le latéral gauche Ambroise Oyongo, blessé juste après son arrivée en prêt à Krasnodar. Pour le reste, les cadres comme Eric Maxime Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar, Christian Bassogok, Michael Ngadeu, André Zambo, Franck Anguissa et Clinton Ndié sont présents. En Espagne, à 5 jours de l'élection d'un nouveau président au FC Barcelone, son ancien patron, Josep Maria Bartomeu, a été remis en liberté provisoire ce mardi après son audition par la justice dans le cadre de l'enquête sur le Barça Gate, une campagne présumée de calomnie visant des figures du club. Arrêté lundi et soupçonné d'abus de confiance et de corruption, Josep Maria Bartomeu et son ancien bras droit, Raúl Masferrer, ont passé la nuit dans un commissariat avant d'être transférés au palais de justice de Barcelone pour y être entendus. Ici, en NBA, passé au travers à Cleveland samedi, Philadelphie s'est ressaisie en s'imposant avec autorité chez les Pacers 130-114, avec le Camerounais Joel Embiid, auteur de 24 points et 13 rebonds. Les stars James Harden et Kyrie Irving ont dû s'employer en prolongation pour permettre à Brooklyn d'avoir le dernier mot à San Antonio, battu 124-113. La Nouvelle-Orléans a pris le dessus sur Utah 129-124. Le prodige slovène qui vient de fêter ses 22 ans a une nouvelle fois été le grand artisan du succès de Dallas à Orlando. 130-124, Doncic a fini à une passe du triple-double avec 33 points et 10 rebonds.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Maintenant, les dossiers du jour. Au Tchad, le principal opposant Saleh Kebzabo a condamné l'attaque militaire du domicile de M. Yahya Dilo Djerou, opposant et candidat déclaré. Invoquant une militarisation évidente du climat politique, M. Kebzabo a annoncé le retrait de sa candidature de la présidentielle du 11 avril, je cite, « pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare pour une grande échelle ». Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint le politologue Évariste Ngarlem Toldé, enseignant-chercheur à l'université d'Ndjamena.
Il y avait déjà une certaine tension perceptible. Les opposants tchadiens avaient déjà contesté le découpage électoral. Le dépôt des candidatures a entraîné beaucoup de tiraillements. Il y a eu des coalitions qui se sont faites et qui se sont défaites. Il y a eu des candidats qui ont annoncé leur retrait bien avant la date des dépôts. Et aujourd'hui, avec le retrait du candidat Kebzabo et puis la situation que vit le candidat Yahya Dilo, il va sans dire que nous allons vers un processus qui sera mouvementé, qui sera agité et vers des élections que Dieu seul sait portent déjà les germes d'une contestation, d'une situation qui sera difficile à gérer au moment de la proclamation des résultats définitifs.
Pourquoi ne pas y aller et créer toute cette ambiance autour, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir?
Le parti au pouvoir n'a pas peur d'aller à ces élections. Le parti au pouvoir n'a pas seulement envie de voir certains candidats à ces élections-là.
Pourquoi?
Parce que le MPS n'a pas voulu que certains candidats d'une certaine partie du pays soient candidats, surtout à l'élection présidentielle. C'est le cas de Yahya Dilo. Et le problème qui lui arrive n'est pas seulement dû au problème qu'il a à la justice. Parce que même amener un mandat pour un jour non ouvrable comme le dimanche, et puis pour un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, on a envoyé des militaires avec des chars, avec des armes lourdes. Eh bien, il faut dire qu'il y a des candidats qu'on ne veut pas voir aller à la présidence et qu'on veut forcer à abandonner la course. C'est des gens qui ont coopéré pendant longtemps avec le chef de l'État, qui connaissent un peu ses méthodes et ses manières, qui voulaient que le processus soit plutôt plus transparent que les années passées. Parce qu'aujourd'hui, plus que hier, enfin, personne ne veut de ce sixième mandat.
Justement, si le parti au pouvoir est sûr de remporter la présidentielle du 11 avril, alors pourquoi persécuter, entre griffes, les opposants?
Toute la question est là. Certains même se sont dit, mais on aurait pu invalider, par exemple, la candidature de Yahya Dilo, tout simplement. On aurait pu invalider la candidature de certains candidats. Voilà, c'était plus simple. Mais toujours est-il que c'est un régime qui s'accommode toujours des problèmes et des difficultés. Ça permet de couvrir et de noyer un peu les véritables problèmes. Vous savez que ça fait déjà plusieurs mois que les fonctionnaires sont en grève, ça fait déjà plusieurs jours que c'est-à-dire attendent leur salaire, les fonctionnaires attendent leur salaire. Il y a des situations qu'on veut laisser passer pour perte de profit, et puis voilà, on crée des situations comme ça, et puis ça attire l'attention. Effectivement, c'est des situations graves, mais l'impasse toujours s'accommode de ces genres de situations, et puis voilà, c'est ça la vie au Tchad.
Évariste Ngarlem Toldé, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Après des débuts tumultueux, l'Afrique du Sud a enfin commencé sa campagne de vaccination. Si certains restent méfiants, ces vaccins apportent de l'espoir à des millions de personnes. Reportage à Johannesburg d'Anita Poel, récit signé Claire Morin-Gibourg.
En deux semaines, plus de 67 000 agents de santé ont été vaccinés, selon le président Cyril Ramaphosa. La deuxième phase débutera fin avril avec la vaccination des personnes âgées, des travailleurs essentiels et de toute personne qui a des facteurs de comorbidité comme le diabète ou le sida. Au total, l'Afrique du Sud espère vacciner 40 millions de personnes sur ses 59 millions d'habitants. Pour le docteur Richard Lessels, les autorités ont pris la bonne décision d'arrêter l'utilisation utilisation du vaccin AstraZeneca qui n'était pas totalement efficace contre le variant sud-africain. Et l'utilisation des vaccins russes ou chinois est à l'étude.
Bien sûr que ces retards ont déclenché beaucoup d'inquiétudes. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'introduire le vaccin chez autant de personnes que possible avant toute résurgence et toute éventuelle troisième vague.
À Johannesburg, le centre économique du pays, les habitants ont des sentiments mitigés au sujet de la campagne de vaccination.
Ce vaccin va nous aider parce que de nombreuses personnes en Afrique du Sud sont mortes à cause de ce virus.
Je ne pense pas que je prendrai le vaccin de sitôt parce qu'il n'a pas été essayé ailleurs dans le monde. Pourquoi devrions-nous être les premiers? Pourquoi ne pas attendre, comme le reste du monde, un vaccin qui a prouvé qu'il pouvait nous mettre à l'abri de ce coronavirus?
La nation arc-en-ciel a un long chemin à parcourir, mais le président Ramaphosa reste optimiste.
Tant
de choses ont changé dans notre pays et dans nos vies, mais l'esprit de notre peuple n'a pas changé. Vous avez enduré les plus grandes épreuves, mais vous êtes restés résolus, unis et pleins d'espoir. Aujourd'hui, un an après que le virus a atteint nos côtes pour la première fois, nous avons une solution pour contenir les infections et vaincre la maladie.
Une victoire permise, dit-il, grâce au vaccin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, la consommation de médicaments contenant du fentanyl est en hausse, tout comme les surdoses mortelles. C'est une épidémie que la pandémie de COVID-19 a reléguée au second plan. Un reportage de Véronica Balderas Iglesias de la VOA. Le récit est de Nathalie Barge.
Plus de 86 000 personnes sont mortes d'une surdose l'année dernière aux États-Unis, une augmentation d'un peu plus de 24%. C'est un véritable problème de santé publique. Véronica Saint-Arnold a perdu son mari et mort des suites d'une surdose.
Mon mari vient de décéder. C'est un peu dur quand même. J'essaie juste de surmonter la perte et la vie quotidienne.
Pendant des décennies, son mari a utilisé des médicaments sur ordonnance et des opioïdes pour soulager une douleur lancinante résultant d'une série de chirurgies de la colonne vertébrale. Il pensait prendre des pilules normales alors qu'en réalité c'était du fentanyl. 100 fois plus puissant que la morphine, l'opioïde synthétique fentanyl a étendu sa présence mortelle aux États-Unis. Quelques milligrammes de fentanyl comme quelques taches de sel peuvent tuer. Mais mélangé à de l'héroïne et de la méthamphétamine, c'est une énorme source de profit pour les trafiquants de drogue illégale qui la vendent à l'insu de l'utilisateur. Jarrod Forget est l'agent spécial en charge de la division de lutte contre la drogue, la DEA, à Washington.
Because fentanyl is gonna make...
Ce que le fentanyl va rendre les gens plus dépendants de ces drogues, et c'est moins cher, c'est puissant, plus fort, donc beaucoup plus d'overdoses.
Washington, la capitale fédérale, a enregistré une augmentation exponentielle des décès en 2020, qui a été l'année de la pandémie dévastatrice de COVID-19. La psychiatre Nora Volko, directrice de l'Institut national sur l'abus des drogues.
Le stress est le meilleur indicateur de la consommation de drogue. Et qu'est-ce qui est stressant? L'isolement dans lequel nous vivons, la perte d'emploi, le ralentissement économique. Il est facile de tomber dans ces comportements qui temporairement vous font sentir mieux.
Cory Cusimano a perdu son fils en 2015. Selon elle, les familles ne peuvent pas toujours payer le traitement pour inverser une surdose d'opioïdes.
La réadaptation coûte très cher, c'est entre 6 et 14 000 dollars pour un programme d'hospitalisation de 30 jours. Et après cela, ils peuvent reprendre une vie sobre.
La Maison-Blanche assure que l'administration Biden travaille sur des solutions basées sur la science, le renforcement de la lutte contre la toxicomanie et la correction des disparités raciales. Les agences de lutte contre la drogue intensifient leur campagne de prévention et de sensibilisation. Raj Parekh, procureur par intérim dans l'est de la Virginie.
À commencer par les enfants d'âge scolaire, s'ils apprennent tôt tous les risques associés à ces substances mortelles, cela réduira la demande. Il s'agit de prévention, de traitement, d'application de la loi.
Les centres de prévention et de lutte contre les maladies, les CDC, estiment que le nombre de morts par surdose, essentiellement dues aux drogues opiacées aux États-Unis, a augmenté de presque 25% entre juillet 2019 et juillet 2020. Avant la pandémie, la crise des opiacés et la flambée de surdoses étaient le principal problème des services de santé publique. Mais aujourd'hui, tout le monde est débordé par le coronavirus.
Après son passage à la Chambre des représentants des États-Unis avec le soutien démocrate uniquement, le plan de relance d'un montant de 1900 milliards de dollars présenté par le président Joe Biden pour lutter contre la pandémie de COVID-19 va être examiné cette fois au Sénat. Ce sera aussi un test pour la peine à l'unité du locataire de la Maison-Blanche, comme le rapporte Michel Quinn de la VOA. Le récit est signé Jacques Aristide.
Le taux d'infection à la maladie COVID-19 est en baisse aux États-Unis et le gouvernement a donné son feu vert à un troisième vaccin. Mais les retombées économiques se poursuivent. Le plan anti-COVID du président Biden, de l'ordre de 1900 milliards de dollars, a pour but d'aider les chômeurs ainsi que les districts scolaires en difficulté et les industries au bord du précipice. Le projet de loi n'a été adopté à la Chambre des représentants que par des voix démocrates. C'est maintenant au tour du Sénat, composé de 100 élus, divisé de manière égale entre démocrates et républicains, de l'étudier. La vice-présidente démocrate Kamala Harris détient une voix supplémentaire en cas de vote à égalité. Le plan, qui comprend des chèques de 1 400 $ pour la plupart des Américains, ne peut ainsi perdre aucune voix démocrate. Tous les démocrates, toutefois, ne sont pas unis derrière le texte. Certains parlementaires veulent se battre pour augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure, ce qui ne figure pas dans la version du Sénat. La sénatrice Maisie Hirono est une démocrate d'Hawaï lors d'une interview dans This Week sur la chaîne ABC.
Je soutiens l'augmentation du salaire minimum dans le projet de loi COVID parce que c'est un élément important de la reprise économique. Les personnes qui souffrent le plus du salaire minimum et de ce qui découle de la pandémie sont les travailleurs essentiels. Beaucoup d'entre eux sont des femmes et beaucoup d'entre elles reçoivent des salaires très bas.
Certains sénateurs démocrates et républicains suggèrent qu'au lieu d'augmenter le salaire minimum directement dans le projet de loi, d'autres choses pourraient être faites, comme restreindre les allègements fiscaux aux entreprises qui n'augmentent pas les salaires. Dans l'ensemble, cependant, les républicains plaident en faveur d'un plan de relance économique aux visées plus limitées. Le sénateur Rob Portman est un républicain de l'Ohio, également dans l'émission This Week de ABC.
Ce n'est tout simplement pas ciblé. Nous avons une alternative républicaine. Comme vous le savez, nous avons discuté avec le président et ses collaborateurs, mais nous n'avons obtenu aucune réponse. Notre plan est beaucoup plus ciblé et axé sur les véritables problèmes de santé et économiques qui sont urgents.
Les dirigeants démocrates veulent que le projet de loi soit voté d'ici le 14 mars prochain, date à laquelle les allocations de chômage expireront. S'il est adopté, le programme d'aide sera le 6e plan de secours du gouvernement fédéral depuis le début de la pandémie.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. Lionel Lunanila Gahima, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, c'était Eric Manirakiza. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt.
Au revoir.